avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Chers auditeurs de Radio Alapourdi, bonjour. Cette chronique d'actualité de l'Observatoire sociopolitique diocésain évoquera aujourd'hui un sujet qui est d'actualité depuis des années et qui risque d'aboutir au vote prochainement d'une loi sur l'euthanasie. C'est donc de la fin de vie dont je voudrais vous parler parce que le Conseil permanent de l'Épiscopat français, qui est réuni à Lourdes actuellement en session, en assemblée plénière, a publié une déclaration très intéressante qu'on peut trouver sur le site internet du diocèse de Bayonne, mais aussi sur le site internet de la Conférence des évêques de France, datée du 28 mars et qui s'intitule « L'aide active à vivre, un engagement de fraternité ». Je me contenterai de citer un paragraphe de ce document très intéressant, dans le ton, dans la forme et sur le fond, et je le commenterai à partir d'un certain nombre de messages, de témoignages, de tweets parfois, de réflexions en tout cas, que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux bien davantage que dans la presse et les principaux médias, plutôt favorables en général à l'euthanasie et à l'évolution de la loi actuelle. Donc je cite un paragraphe du Conseil permanent de l'Épiscopat. « Nous entendons de très nombreux soignants affirmer vigoureusement que la main qui prend soin ne peut en aucun cas être celle qui donne la mort. Nous entendons plusieurs observateurs de notre société, aux opinions philosophiques et aux appartenances religieuses diverses, mettre en garde contre l'injonction de renoncer à vivre que ferait peser sur les personnes fragiles la facilité légale et économique de l'aide active à mourir. Nous entendons la révolte, la colère, le sentiment d'injustice qui retentissent face à la souffrance et à la mort comme des appels à une plus grande fraternité et comme la recherche d'une espérance dont nous désirons témoigner, mais en aucun cas comme légitimation de l'euthanasie ou du suicide assisté. » Et pour donc apporter en quelque sorte un complément à cette déclaration à partir donc de témoignages ou de réflexions diverses trouvées sur les réseaux sociaux, je rebondirai sur la question de finalement l'acte d'euthanasie lui-même qui consiste à mettre fin à la vie des gens. Alors Erwan Lemoredec, un avocat qui a écrit d'ailleurs un ouvrage très intéressant sur le sujet de la fin de vie, nous dit « Euthanasier, ce n'est pas accompagner les gens en fin de vie, c'est mettre fin à la vie des gens ». Sur la même question de la vie et de l'importance de la vie, ce témoignage également très intéressant de Madame Tanguy, une certaine Madame Tanguy qui nous dit, c'est un député je crois, qui nous rappelle qu'en vertu du serment d'Hippocrate, le médecin est celui qui soigne et non pas celui qui met fin à la vie d'autrui. Claire Fourcade, qui est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, nous dit « Aujourd'hui, les personnes qui tentent de mettre fin à leur jour sont réanimées. Qu'en sera-t-il demain si une telle loi est votée ?» Donc ça fait réfléchir sur l'importance et le prix de la vie. Et dans le même esprit, un médecin, le docteur Barrière, dans un tweet, nous dit « Pour moi, toute personne qui exprime son souhait de mourir est une personne sur un pont, et notre humanité, notre socle de fraternité, doit tout faire pour l'empêcher de sauter, sinon c'est admettre alors qu'on laisse sauter d'un pont des gens, puisque c'est leur choix. » Donc il y a la question de l'importance de la vie, et puis il y a la question de la dignité de la personne humaine qui est très importante, et là aussi quelques témoignages ou réflexions intéressantes. « La dignité humaine n'est pas conditionnelle. En cela, le concept de mourir dans la dignité est assez absurde. » C'est ce que nous dit un professeur de philosophie spécialisé dans l'éthique qui s'appelle Louis-André Richard. Un autre philosophe, Rémi Brague, « Ma dignité, nul ne peut me l'ôter. Elle tient à ce que je suis une personne, non à l'état dans lequel je me trouve. » Toujours sur la notion de dignité, une certaine Marie Mérotte écrit « La dignité ne se perd pas parce que l'on est malade, âgé ou handicapé. L'expression « mourir dans la dignité » est impropre. » pour toujours réfléchir sur ce concept de dignité, une certaine Amélie de Linage, dans un tweet, « La dignité de toute personne ne se discute pas, seules les conditions de vie ou de sa prise en charge peuvent devenir indignes et sont donc à améliorer autant que possible. La dignité ne se définit pas en soi, elle se lit dans le regard de l'autre. » Et puis, un dernier témoignage, l'abbé Pierre Amard, qui nous dit dans un tweet « Je suis contre l'euthanasie, non pas d'abord en raison de ma foi chrétienne, ni de mes opinions politiques. J'y suis opposé parce que je refuse qu'on me dise un jour « Tu es digne tant que tu es autonome. Quand tu es vieux ou fragile, la question de la mort doit se poser. » De même, on lit dans un tweet de La Croix, « Dans une société moderne et capitaliste, la valeur de l'être humain n'est plus considérée en fonction de sa dignité intrinsèque et inaliénable, mais en fonction de son utilité sociale. Lorsqu'il perd son utilité, il perd simultanément sa valeur. » Donc cette notion de dignité est importante puisqu'on l'entend très fréquemment invoquée en faveur de l'euthanasie. Sinon, on peut aussi évoquer à travers ces témoignages ou ces réflexions que je vous livre, pour qu'on puisse les méditer, les conséquences et les dérives qu'entraînerait inéluctablement, et tout le monde le sait bien, je crois, le vote d'une loi en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté. Alors, sur un tweet de génétique de la Fondation Le Jeune, « Si la France fait le choix de l'euthanasie, il s'agirait d'une rupture éthique et anthropologique. Tout le monde doit avoir conscience de la portée de ce changement, car si personne ne sera obligé de demander une euthanasie, tout le monde sera obligé de l'envisager. Chaque patient se demandera « Est-ce qu'abréger ma vie serait mieux pour moi, pour mes proches, pour la société ?» Point d'interrogation. Marie de Henzel, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la fin de vie ou sur les soins palliatifs, nous dit « Comment garantir que les médecins ne subiront pas des pressions pour libérer des lits ?» C'est aussi un danger que laisse entrevoir l'euthanasie. C'est la même préoccupation d'ailleurs que l'on voit exprimée par certains élus. Je cite par exemple ce tweet. Macron prend le modèle belge. Ça a commencé avec les malades sans perspective de rédemption, puis ça a été étendu aux mineurs et aujourd'hui, on parle des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. On sait quand ça commence, pas quand ça finit. Un tweet de Culture Palliative. L'euthanasie, c'est la marchandisation de la mort et la suppression des plus faibles pour faire des économies dans la dernière année de votre vie. Alors c'est un peu violent, mais malheureusement, cette intuition est confirmée par l'exemple, par exemple, du Canada. Claire Fourcade, que j'ai citée comme présidente de la SFAP, écrit « Aucun pays ayant légalisé l'euthanasie n'a tenu les limites de départ. Au Canada, le critère de fin de vie a été levé après 2 ans. Aujourd'hui, on trouve des exemples de personnes euthanasiées parce que pauvres ou handicapées. » Henri de Sauce, auteur lui aussi d'un livre sur l'euthanasie, dans un tweet, écrit « Le Parlement canadien avait calculé, très officiellement, en septembre 2020, que les économies pouvaient atteindre 149 millions de dollars si l'on votait une nouvelle loi qui élargissait encore les cas possibles d'euthanasie. Cette loi a été votée en mars 2021. » Et un témoignage d'un ancien partisan de l'euthanasie, professeur d'éthique belge qui s'appelle Théo Bauer, décider d'une euthanasie active car les soins palliatifs sont trop chers, c'est la triste réalité au Canada. Voilà, on voit donc le danger, les dérives possibles, le danger étant principalement d'ailleurs que les personnes puissent considérer une fois une telle loi votée, qu'elle représente un poids pour la société ou pour leur entourage, notamment familial. Je prends là aussi quelques témoignages intéressants. Son traitement coûte trop cher, elle demande l'euthanasie. Il préfère me voir mourir plutôt que de reconnaître ma maladie et de payer les traitements qui me maintiennent en vie. Donc c'est un témoignage qui peut faire réfléchir. Bénédicte Pétel écrit, c'est une députée qui s'est penchée sur le sujet, « J'ai peur que les malades se sentent un poids avec une loi sur la fin de vie. J'ai peur pour notre capacité de prendre soin les uns des autres et à accepter la vulnérabilité. » Sur génétique, Marie de Henzel cite une personne âgée, « Peut-être qu'on nous culpabilisera de vouloir rester en vie. » Tribune saisissante également d'Edwidge Mutu, atteinte de la maladie de Parkinson, je la cite. Donner la liberté de recourir au suicide assisté, c'est autoriser la société à faire pression pour que certains aient l'élégance de demander la mort et de ne pas peser. Dans le même sens, d'ailleurs, d'un témoignage d'une patiente polyhandicapée. Non, monsieur le président, l'euthanasie n'est pas un soulagement, cette idée me fait même porter une lourde culpabilité. Je suis de trop, je suis un poids pour les autres, je coûte cher. Le docteur Claire Fourcade, que j'ai cité à plusieurs reprises, médecin en soins palliatifs, entre parenthèses, je la cite, « Les exemples internationaux démontrent que le fait de se considérer comme un poids pour la société et les proches joue énormément dans les demandes de mort. » On voit donc qu'il y a effectivement ce danger et cette dérive possible. Alors, finalement, comment conclure, si ce n'est par un rappel, comme le fait le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, de l'importance des soins palliatifs, en fonction d'ailleurs des derniers témoignages ou messages que je vais vous lire brièvement. De la part de Claire Fourcade encore, la plupart des demandes d'euthanasie cessent lorsqu'il y a une prise en charge de la douleur sur le plan physique et psychique. Nos patients ne nous demandent pas de mourir dans la dignité, mais de vivre dans la dignité. Monseigneur Michel Le Petit disait, il n'y a pas très très longtemps, la même chose d'ailleurs, la solution devant une souffrance, ce n'est pas de tuer une personne, c'est de la soulager. Duc d'Hualderville, bien connu comme patron d'Alliance Vita, nous dit la même chose. L'enjeu n'est pas la promotion du suicide ou l'euthanasie, mais de lutter contre la douleur et d'accompagner les personnes en fin de vie. Et même Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé, a apporté récemment ce témoignage que relaient plusieurs tweets. Elle dit « Je me suis aperçu que plus les patients se rapprochent de la mort, moins ils demandent à mourir et plus ils demandent qu'on trouve un traitement qui peut les soulager et prolonger leur vie. Je n'ai pas le souvenir de malade qui m'ait demandé à mourir. » Autre témoignage. Une certaine Jeanne Amourousse, les personnes en fin de vie ne nous demandent pas de les faire mourir, elles nous demandent de les soulager et de les accompagner. C'est le témoignage, je crois, d'une infirmière de soins palliatifs. Il y en a d'autres, je prends celui-là par exemple. Lorsqu'on prend en charge la souffrance, les demandes d'euthanasie cessent. Et également, Émeric Pourbet, ou plutôt non, Anne-Claire Courreau, citée par Émeric Pourbet dans un tweet, la plupart des personnes qui se posent la question de l'euthanasie le font parce qu'elles ont peur de souffrir en fin de vie, cette souffrance. On peut y répondre par les soins palliatifs. Les soins palliatifs, dont la définition peut être la suivante, c'est la définition qu'en donne la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est une médecine qui accompagne la vie avec la maladie et permet à chacun de partir sereinement, sans souffrir, entouré des gens qu'il aime. Le problème étant, on le sait, que seuls 26 départements ont des unités de soins palliatifs, c'est-à-dire que seuls 30% des Français sont éligibles aux soins palliatifs dans notre pays, en dépit de cette urgente nécessité qu'il y a à les développer. Et je donne raison à Claire Fourcade, que j'ai maintes fois cité, lorsqu'elle nous dit « Sur la fin de vie, on ne manque par conséquent pas de loi, mais de moyens. »
Pour entrer en contact avec l'Observatoire socio-politique du diocèse de Bayonne-Lescar-Réoloron, 05 59 59 67 92.